l'homme aux cheveux sur la langue. Trois mois plus tard, par une fraîche matinée d'octobre, Tim Jamison flânait sur le chemin qui menait de ce qu'on appelait la ferme de Catawba Hill à la South Carolina State Road 12A. Une promenade qui prenait un certain temps, car le chemin faisait presque un kilomètre. Il portait un jean délavé, des chaussures de chantier Georgia Giant sales, et un sweatshirt si large qu'il lui descendait jusqu'à mi-cuisse. Un cadeau de Luke, commandé sur Internet. Sur le devant, en lettres dorées, on pouvait lire « L'avorton ». Tim n'avait jamais rencontré Avery Dixon, mais il était heureux de porter ce sweatshirt. Il avait le teint bronzé. La ferme de Catawba n'en était plus vraiment une depuis 10 ans, mais il restait un demi-hectare de jardin derrière la grange, et c'était la saison des récoltes. Il ouvrit la boîte aux lettres, fit défiler les prospectus habituels, à croire que plus personne ne recevait de véritables courriers de nos jours, puis se figea. Son estomac, qui semblait aller parfaitement bien durant cette marche, se contracta. Une voiture approchait et ralentissait. Elle s'arrêta. Elle n'avait rien de particulier, une banale Chevrolet Malibu, maculée de poussière rougeâtre, arborant une collection d'insectes écrasés sur la grille du radiateur. Ce n'était pas un voisin. Tim connaissait toutes leurs voitures. Peut-être un représentant ou un automobiliste qui cherchait son chemin? Non. Tim n'avait jamais vu l'homme qui se trouvait au volant. En revanche, il l'attendait. Et aujourd'hui, l'homme était là. Tim referma la boîte aux lettres et glissa une main dans son dos, comme pour remonter sa ceinture. Mais sa ceinture était en place, tout comme le pistolet, un Glock ayant appartenu à un shérif adjoint roux nommé Taggart Faraday. L'homme coupa le moteur et descendit de voiture. Son jean était beaucoup plus neuf que celui de Tim, on voyait encore les plis du magasin, et sa chemise blanche était boutonnée jusqu'au cou. Il avait un visage à la fois beau et quelconque, ce qui pourrait apparaître comme une contradiction jusqu'à ce que vous ayez devant vous un type dans son genre. Des yeux bleus et des cheveux d'un blond nordique, presque blanc. En vérité, il ressemblait beaucoup à l'image que s'en faisait feu Julia Sixby. Il salua Tim, qui lui rendit son bonjour en gardant sa main dans son dos. « Vous êtes Tim Jamison ?» Le visiteur tendit la main. Tim la regarda simplement. « Oui ? Et vous êtes ?» Le blond sourit. « Disons que je m'appelle William Smith. C'est le nom qui figure sur mon permis de conduire. » Smith prononçait avec un léger zézément. « Appelez-moi Bill. Que puis-je pour vous, monsieur Smith ?» L'homme qui se faisait appeler Bill Smith, un nom aussi anonyme que sa voiture, plissa les yeux dans la lumière du soleil matinal et esquissa un sourire, comme s'il hésitait entre plusieurs réponses possibles, toutes agréables. Puis son regard revint se poser sur Tim. Le sourire était toujours là, mais ses yeux ne souriaient pas. « Nous pourrions tourner autour du pot, mais je suis sûr qu'une journée chargée vous attend. Alors je ne vous ferai pas perdre votre temps plus que nécessaire. Sachez tout d'abord que je ne viens pas pour vous faire des ennuis, et donc, si c'est une arme et non pas une démangeaison que vous avez dans le dos, laissez-la où elle est. Nous serons d'accord pour dire, je pense, que cette partie du monde a connu assez de fusillades pour un an. » Tim faillit demander à M. Smith comment il l'avait retrouvé, mais à quoi bon? Ça ne devait pas être très compliqué. La ferme Catawba appartenait à Harry et Rita Gullickson, qui vivaient maintenant en Floride. Leur fille surveillait la propriété familiale depuis 3 ans. Pouvait-on trouver mieux que l'adjointe d'un shérif? Une ancienne adjointe, plus exactement. Car même si elle continuait à toucher son salaire, pour le moment du moins, difficile de définir ses attributions. Ronnie Gibson, en congé le soir où avait débarqué le commando de Mme Sixby, occupait les fonctions de shérif de Fairley County par intérim. Mais nul ne pouvait dire combien de temps cela durerait. On parlait de transférer le bureau du shérif dans la ville voisine de Dunning, et Wendy n'avait jamais été faite pour assurer le maintien de l'ordre au quotidien. « Où est l'officier Wendy ?» demanda Smith. « Dans la maison, sans doute ?»« Où est Stackhouse ?» répliqua Tim. « C'est lui qui vous a parlé de l'officier Wendy, je suppose, puisque Sixby est morte. » Smith haussa les épaules, glissa les mains dans les poches arrière de son jean neuf et se balança sur ses talons en regardant autour de lui.
« La vache, c'est fouette par ici, hein ?»« Chouette ressemblait un peu à Sweat,
mais le zézement était très léger, presque imperceptible. Tim décida de ne pas continuer sur le sujet de Stackhouse. À l'évidence, cela ne le mènerait nulle part, et de toute façon, Stackhouse appartenait au passé. Peut-être s'était-il exilé au Brésil, en Argentine ou en Australie, peut-être était-il mort. Pour Tim, cela ne faisait aucune différence. Et puis l'homme aux cheveux sur la langue avait raison. Inutile de tourner autour du pot. L'adjointe Gullickson est à Columbia pour une audition à huis clos concernant la fusillade survenue l'été dernier. Je suppose qu'elle a une histoire toute prête et convaincante pour ces messieurs de la commission. Tim ne voyait pas l'intérêt de confirmer cette supposition. Elle doit également assister à plusieurs réunions au cours desquelles sera évoqué l'avenir des forces de l'ordre de Fairleigh County, décimées par les sbires que vous y avez envoyés. Smith écarta les bras. Les personnes pour lesquelles je travaille et moi-même n'avons rien à voir dans tout cela. Madame Sixby a agi de son propre chef. C'est peut-être vrai, mais peut-être pas, aurait pu répondre Tim. Elle a agi ainsi parce qu'elle avait peur de vous et des personnes avec lesquelles vous travaillez. Je crois savoir que George Illes et Helen Sims sont partis, dit M. Smith. Le jeune Illes chez un oncle en Californie, Miss Sims chez ses grands-parents dans le Delaware. Tim ignorait d'où il tenait ces informations. Norbert Hollister avait fichu le camp, le Dupré Motel était fermé, et la pancarte à vendre placardée sur la façade y resterait sans doute longtemps, mais elles étaient exactes. Tim n'avait jamais cru qu'il pourrait rester dans l'ombre, il n'était pas naïf. Mais ça ne lui plaisait pas de voir que M. Smith était si bien renseigné sur les enfants. Cela signifie que Nicholas Wilholm et Kalisha Benson sont toujours ici, et Luke Ellis aussi, évidemment. Le sourire réapparut, plus discret. Le responsable de tous nos malheurs. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Smith? Presque rien, en vérité. Nous allons y venir. Avant cela, permettez-moi de vous féliciter. Pas seulement pour le courage dont vous avez fait preuve en vous attaquant à l'Institut quasiment seul, mais pour toute l'attention que vous avez apportée aux enfants ensuite, avec l'officier Wendy. Vous les avez dispatchés, n'est-ce pas? Il est, tout d'abord, un mois après votre retour en Caroline du Sud, le jeune Sims, 15 jours plus tard, l'un et l'autre porteur d'une histoire de kidnapping pour des raisons inconnues, de détention dans un endroit inconnu et de libération pour des raisons inconnues, là encore. L'officier Wendy et vous avez réussi à tout organiser, alors que vous-même deviez être surveillé de près. Comment vous le savez? L'homme aux cheveux sur la langue ne répondit pas, mais ça n'avait pas d'importance. Tim devinait qu'une partie de ces informations provenait de la presse et d'Internet. Les enfants kidnappés qui réapparaissent, ça fait toujours la une. Quand Wilholm et Benson doivent-ils partir? Après réflexion, Tim décida de répondre. Nicky part vendredi, chez son oncle et sa tante, dans le Nevada. Son frère s'y trouve déjà. Nick n'est pas fou de joie, mais il sait qu'il ne peut pas vivre ici. Kalisha va rester encore une semaine ou deux. Elle a une sœur de 12 ans son aînée à Houston. Kalisha a hâte de la retrouver. C'était à la fois vrai et faux. Comme tous les autres, Kalisha souffrait de stress post-traumatique. Et leurs récits résisteront aux interrogatoires de la police? Oui, ce sont des histoires très simples. Et bien sûr, ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils disaient la vérité. Tim marqua une pause, même si personne ne les croirait. Et le jeune monsieur Ellis? Luc restera avec moi. Il n'a plus de famille proche et nulle part où aller. Il a déjà repris ses études. Ça l'apaise. Ce garçon est en deuil, monsieur Smith. Il porte le deuil de ses parents, de ses amis. Il foudroya du regard l'homme blond qui lui faisait face. Et le deuil, je suppose, de la jeunesse que vous lui avez volée. Il attendit que Smith réagisse. En vain. Alors il reprit. Un jour, si on réussit à élaborer une histoire relativement solide, peut-être qu'il reprendra sa vie là où il l'a laissée, avec une double inscription à Emerson College et au MIT. C'est un garçon très intelligent. Inutile d'ajouter, comme vous le savez. Mais est-ce que ça vous intéresse? Pas vraiment, reconnut Smith. Il sortit de sa poche de chemise un paquet d'American Spirit. Vous fumez? Tim secoua la tête. Moi-même, ça m'arrive rarement. Mais je suis une thérapie pour mon zézément. Et je m'offre une petite récompense quand je parviens à le contrôler dans une conversation, surtout longue et intense comme celle-ci. Avez-vous remarqué mon zézément? À peine. Monsieur Smith hocha la tête, visiblement satisfait, et il alluma sa cigarette. L'odeur dans l'air frais du matin était aromatique, sucrée. Une odeur qui semblait faite pour la région du tabac, ce qu'elle était toujours, mais plus à la ferme Catawba, depuis les années 80. Vous êtes certain, j'espère, qu'ils resteront bouche cousue, comme on dit? Si l'un d'eux parle, cela aura des conséquences sur les cinq. En dépit de cette clé USB que vous détenez prétendument, certains de mes collègues pensent qu'elle n'existe pas. Tim sourit sans montrer ses dents. Vos collègues auraient tort de courir le risque.
Admettons que vous ayez raison. Si ces enfants décidaient de raconter leurs aventures dans le Maine, ce serait une très mauvaise idée. Alors, si vous êtes en relation avec M. Hillès et Mlle Sims, vous devriez peut-être leur passer le message. À moins que Wilhelm, Benson et Ellis puissent les contacter par d'autres moyens. Vous faites allusion à la télépathie? Personnellement, je n'y crois pas trop. Ils ont régressé et retrouvé leur niveau d'avant leur enlèvement. Idem pour la télékinésie. Il répétait à Smith ce que lui avaient dit les enfants, sans être sûr d'y croire totalement. En revanche, une chose était indéniable. Cet épouvantable bourdonnement n'avait jamais réapparu. Comment avez-vous étouffé l'affaire? Je suis curieux de le savoir. Mais vous ne le saurez pas. Néanmoins, je peux vous dire que d'autres installations, ailleurs que dans le Maine, ont nécessité notre intervention. Il existait 20 autres instituts dans d'autres endroits du monde, et aucun n'est resté opérationnel. Deux d'entre eux, installés dans des pays où l'on inculque l'obéissance aux enfants dès la naissance, ont continué à fonctionner pendant 6 semaines environ, mais nous avons dû faire face à des suicides collectifs.
Suicide collectif ou tuerie? Se demandait Tim, bien qu'il n'ait aucune envie d'aborder le sujet. Plus vite il se débarrasserait de cet homme, mieux ça vaudrait.
Cette hélice, grâce à votre aide, essentiellement grâce à votre aide, nous a ruinés. Cela doit vous paraître mélodramatique, mais c'est la vérité. Vous croyez que ça me chagrine?
Vous tuiez des enfants. Si l'enfer existe, c'est là que vous finirez.
Alors que vous, monsieur Jamison, vous pensez certainement que vous irez au paradis s'il existe. Et qui sait, vous avez peut-être raison. Comment Dieu pourrait-il renvoyer un homme qui vole au secours de jeunes enfants sans défense? Si vous me permettez de citer le Christ sur la croix, vous serez pardonné car vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Il jeta sa cigarette. Mais je vais vous le dire. Je suis venu pour ça, avec l'accord de mes associés. Grâce à vous et à Ellis, le monde est désormais en mode surveillance suicide. Cette fois, le mot fut prononcé correctement. Tim ne dit rien, il attendait. Le premier institut, qui ne portait pas encore ce nom, a vu le jour dans l'Allemagne nazie.
Pourquoi ne suis-je pas étonné?
Et pourquoi êtes-vous si prompt à juger? Les nazis ont travaillé sur la fission nucléaire avant l'Amérique. Ils ont mis au point des antibiotiques encore utilisés aujourd'hui. Ils ont plus ou moins inventé la physiologie moderne. Et des savants allemands ont mené des expériences de perception extrasensorielle avec le soutien enthousiaste d'Hitler. Ils ont découvert de manière quasi accidentelle que des groupes d'enfants dotés de certains talents parvenaient à faire en sorte que certains fauteurs de troubles, des obstacles au progrès, dirons-nous, cessent de nuire. On a arrêté de les utiliser en 1944, faute de méthodes sûres, scientifiques, pour les remplacer, quand ils devenaient des gorks, pour reprendre le jargon de l'Institut. Le test le plus performant afin de déceler les talents psychiques latents est arrivé plus tard. Vous savez de quoi il s'agit?
Le BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. D'après Luc, c'est le marqueur.
Un garçon très intelligent, en effet. Toutes les personnes concernées regrettent aujourd'hui de s'être intéressées à lui. D'autant que son BDNF n'était pas si élevé que ça. J'imagine que Luc aurait préféré également que vous ne vous intéressiez pas à lui, ni à ses parents.
Allez-y, dites ce que vous avez à dire.
Très bien. Des conférences ont été organisées avant et après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, ça vous dit quelque chose? Je sais que Roosevelt, Churchill et Staline se sont réunis à Yalta pour se partager le monde. Oui, c'est la conférence la plus célèbre, mais la plus importante a eu lieu à Rio de Janeiro. Et aucun gouvernement n'y participait, à moins de considérer le groupe des personnes présentes et leurs successeurs comme une sorte de gouvernement fantôme. Nous avions entendu parler de ces enfants allemands et nous avons entrepris d'en savoir plus. En 1950, nous avons compris l'intérêt du BDNF. Et des instituts ont vu le jour, l'un après l'autre, dans des lieux isolés. Les techniques ont été affinées, ils fonctionnent depuis 70 ans, et d'après nos estimations, ils ont sauvé le monde d'un holocauste nucléaire plus de 500 fois.
Ridicule, dit Tim. C'est une plaisanterie.
Non. Laissez-moi vous donner un exemple. Au moment où les enfants de l'Institut du Maine se sont révoltés, une révolte qui s'est propagée comme un virus à tous les autres instituts, ils avaient commencé à travailler sur le suicide d'un évangéliste nommé Paul Westin. Grâce à Luke Ellis, cet homme vit toujours. Dans 10 ans, il deviendra le proche associé d'un chrétien qui sera nommé secrétaire d'État à la Défense. Westin convaincra le secrétaire d'État qu'une guerre est imminente, et le secrétaire d'État en convaincra le président, ce qui débouchera sur une attaque nucléaire préventive. Un seul missile, qui pourrait cependant provoquer la chute de tous les dominos. Cette partie dépasse nos capacités de prédiction.
Vous n'avez aucun moyen de savoir ça.
À votre avis, monsieur Jamieson, comment choisissons-nous nos cibles? En sortant un nom d'un chapeau? Tim fronça les sourcils. Il n'avait jamais réfléchi à cette question.
Par télépathie, je suppose?
Monsieur Smith ressemblait à un professeur patient face à un élève attardé. La télékinésie permet de déplacer des objets, la télépathie de lire dans les pensées. Aucune des deux ne permet de deviner l'avenir.
Il prit une autre cigarette.
Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas une?
Tim secoua la tête. Smith alluma son Indian Spirit.
Les enfants comme Luke Ellis et Kalisha Benson sont rares, mais d'autres personnes le sont encore plus. Elles sont plus précieuses que le métal le plus précieux. Et vous savez ce qui est formidable? Leurs talents ne diminuent pas avec l'âge et ne détruisent pas l'esprit de ceux qui les utilisent. Tim perçut un mouvement du coin de l'œil. Il se retourna. Luke avait descendu le chemin. Un peu plus haut sur la colline, Annie Ledoux montait la garde, un fusil de chasse cassé au creux du bras, flanqué de Kalisha et de Nikki. Smith ne les avait pas encore vus. Il contemplait la petite ville de Dupré au loin, dans la brume, et la voie ferrée scintillante qui la traversait. Désormais, Annie passait une grande partie de son temps à Catawba Hill. Elle était fascinée par les enfants qui semblaient l'apprécier. Tim lui fit signe de ne pas bouger. Elle répondit par un hochement de tête. Smith, lui, continuait d'admirer le paysage, et tant mieux. Supposons qu'il existe un autre institut, très petit, très spécial, où tout est ultra-moderne, à la pointe du progrès. Pas d'ordinateur obsolète, ni d'infrastructure délabrée, situé dans un lieu totalement sûr. D'autres instituts opèrent dans des territoires jugés hostiles, mais pas celui-ci. Pas de zapstick, pas d'injection, pas de punition. Et pas besoin de soumettre les pensionnaires de cet institut spécial aux expériences de mort imminente comme le caisson d'isolation pour les aider à développer leurs capacités cachées. Supposons que ça se passe en Suisse, en terrain neutre en tout cas, car beaucoup de pays ont intérêt à ce que ces opérations se poursuivent en douceur. Un grand nombre de pays. Nous avons actuellement 6 pensionnaires spéciaux, ce ne sont plus des enfants et, contrairement aux TP et aux TK des différents instituts, leurs talents ne disparaissent pas à la fin de l'adolescence. 2 d'entre eux sont même très âgés. Leurs taux de BDNF ne sont pas corrélés à leurs talents très particuliers. Ils sont uniques en ce sens et très difficiles à dénicher. Nous cherchons constamment des remplaçants, mais les recherches ont été suspendues maintenant.
Car à quoi bon? Qui sont ces personnes?
Des précogs, dit Luke.
Smith se retourna vivement, surpris.
Hey, bonjour, Luke. Il sourit, tout en reculant d'un pas. Avait-il peur?
Oui, pensa Tim.
Des précogs, exactement.
De quoi vous parlez là? Demanda Tim.
De précognition, expliqua Luke. Des personnes qui voient l'avenir.
Tu plaisantes, hein?
Non, et moi non plus, répondit Smith. Vous pourriez dire que ces 6 personnes constituent notre ligne DEW, un vieil acronyme de la guerre froide signifiant ligne avancée d'alerte. Ou bien, pour faire plus moderne, disons que ce sont nos drones qui qui survolent l'avenir et signalent les endroits où vont se produire de fortes déflagrations. Nous empêchons uniquement les plus graves. Le monde a survécu jusqu'à aujourd'hui car nous avons été capables de prendre des mesures préventives. Des milliers d'enfants sont morts dans ce processus, mais des milliards ont été sauvés. Il se tourna de nouveau vers Luc et lui sourit. Tu l'avais compris, évidemment. C'est une déduction assez simple. Je crois savoir que tu es un génie des mathématiques également, et je suis sûr que tu es conscient du taux de rentabilité.
Peut-être que ça ne te plaît pas, mais tu en es conscient.
Annie et les deux enfants placés sous sa responsabilité descendaient le chemin, et cette fois Tim ne leur demanda pas de faire demi-tour. Il était trop estomaqué par ce qu'il entendait.
La télépathie, je peux y croire. La télékinésie aussi. Mais la précognition, c'est pas de la science, c'est un spectacle de foire.
Je vous assure que non, dit Smith. Nos précogs dénichent les cibles. Les TP, les TK travaillent en groupe pour accroître leur pouvoir afin de les éliminer.
La précognition existe, Tim, dit Luc. Avant même de m'enfuir de l'Institut, j'avais compris que c'était ça.
Et je suis sûr qu'Avery aussi. Sinon, ça n'avait aucun sens. Je me suis renseigné sur le sujet depuis qu'on est ici. Je lis tout ce que je trouve. Les statistiques sont irréfutables.
Kalisha et Nikki rejoignirent Luc. Ils observèrent l'homme blond qui se faisait appeler Bill Smith avec étonnement, sans rien dire.
Annie se planta derrière eux. Vêtue de son sarap, bien qu'il fasse déjà chaud, elle ressemblait plus que jamais à un bandit mexicain. Son regard était pétillant, alerte. Les enfants l'avaient changé. Mais ce n'était pas leur pouvoir, se disait Tim, car à long terme, il était destructeur. Pour lui, c'était uniquement l'association ou le fait que les enfants l'acceptaient telle qu'elle était. Tout simplement. Quelle que soit la cause, il se réjouissait pour elle.
« Vous voyez ?» dit Smith.
« Votre petit génie le confirme. Nos six précogs, fut un temps où ils étaient huit, mais dans les années 70, nous étions tombés à quatre, une époque angoissante, traquent en permanence les individus que nous nommons des charnières, les pivots sur lesquels pourrait reposer l'extinction de l'espèce humaine. Les charnières ne sont pas des agents de destruction, mais des vecteurs de destruction. Westin faisait partie de ces charnières. Une fois que nous avons découvert ces individus, nous enquêtons sur eux, nous les surveillons, nous les filmons. Et pour finir, nous les remettons aux enfants des différents instituts qui les éliminent d'une manière ou d'une autre. »
Tim l'écoutait en secouant la tête. « Je n'arrive pas à y croire.
Comme l'a dit Luc, les statistiques. »
« Les statistiques peuvent prouver n'importe quoi. Personne ne peut prédire l'avenir. » Si vos associés et vous le croyez vraiment, vous n'êtes pas une organisation, mais une secte.
« J'avais une tante qui voyait l'avenir, » déclara Annie. « Un soir où ces garçons voulaient aller dans un bar, elle les a empêchés de sortir, et il y a eu une explosion de gaz. 20 personnes sont mortes grillées comme des souris dans une cheminée, mais ces garçons étaient sains et saufs à la maison. »
Elle s'interrompit, puis ajouta, comme après coup,
« Elle savait aussi que Truman allait être élu président, » alors que personne croyait à cette connerie.
Et pour Trump, elle savait ? Demanda Kalisha.
Oh, elle était déjà morte depuis longtemps quand ce gros con a débarqué, répondit Annie en tapant dans la main levée de Kalisha.
Smith ignora cette intervention.
Le monde est toujours là, Tim. Ce n'est pas une statistique, c'est un fait. 70 ans après la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki, le monde est toujours là. Alors que de nombreuses nations possèdent des bombes atomiques, alors que les émotions humaines et irrationnelles l'emportent encore sur la pensée rationnelle, et que des superstitions déguisées en religion continuent à guider le cours de la politique.
Pourquoi ?
Parce que nous l'avons protégée. Mais cette protection n'existe plus. Voilà ce qu'a réussi à faire Luc Ellis avec votre aide.
Tim se tourna vers le garçon.
Tu crois ce qu'il raconte ?
Non. Et lui non plus. Pas complètement.
Tim ne pouvait pas savoir que Luc pensait à la fille qu'il avait interrogée sur le problème de maths pour l'examen d'entrée à la fac, l'histoire du prix de la chambre de motel. Elle avait fourni la mauvaise réponse, et c'était la même chose ici, sur une échelle beaucoup plus grande. Une mauvaise réponse due à une équation erronée. Je suis sûr que tu aimerais t'en convaincre, répondit Smith.
Annie a raison. Certaines personnes ont des flashs précognitifs. Et sa tante en faisait peut-être partie. D'ailleurs, en dépit de ce qu'affirme ce type, et il en est peut-être convaincu, elles ne sont pas si rares que ça. Si ça se trouve, ça vous est arrivé à vous aussi, Tim. Et vous lui avez donné un autre nom. L'instinct, peut-être.
Ou un pressentiment, intervint Nicky. Dans les séries télé, les flics ont toujours des pressentiments.
Les séries télé, ce n'est pas la réalité, dit Tim. Mais il repensait à un événement du passé. Le jour où il avait décidé subitement, sans véritable raison, de descendre d'un avion pour partir vers le nord en stop.
Et c'est dommage, dit Kalisha. J'adore Riverdale.
Le mot flash est employé à tort et à travers dans les histoires qui parlent de ces choses-là, dit Luke. Parce que ça y ressemble.
C'est une sorte d'éclair, un coup de foudre.
J'y crois. Et je crois qu'il existe des individus capables de les maîtriser.
Smith leva les mains dans un geste qui signifiait « Ah, vous voyez bien. »
C'est justement ce que je disais.
Mais justement était devenu justement. Son zézément était réapparu.
Tim trouva cela intéressant.
« Il y a une chose qu'il ne vous dit pas, » poursuivit Luc.
« Sans doute parce qu'il n'aime pas se l'avouer, les autres non plus.
Comme nos généraux n'aimaient pas s'avouer qu'on ne pouvait pas gagner la guerre du Vietnam, alors que c'était devenu évident au bout d'un moment. »
« J'ignore de quoi tu parles, » dit Smith.
« Vous le savez, » dit Kalisha.
« Ouais, il le sait, » dit Nicky.
« Autant avouer, monsieur, » dit Annie l'orpheline. « Ces gamins lisent dans votre esprit. Rigolo, hein ?»
Luc regarda Tim.
« Quand j'ai compris que toute cette opération reposait sur la précognition et quand j'ai pu avoir accès à un vrai ordinateur...
« Un ordi qui fonctionne sans avoir besoin de jetons, il veut dire, »
précisa Kalisha. Luc lui donna un petit coup de coude.
« Tais-toi un peu, s'il te plaît. »
Nicky sourit.
« Fais gaffe, chat. Le kiss met en rogne. »
La fillette rit. Pas Smith.
L'arrivée de Luc et de ses amis lui avait fait perdre le contrôle de la conversation, et son expression, bouche pincée, sourcils froncés, indiquait qu'il n'y était pas habitué.
« Donc, quand j'ai pu avoir accès à un vrai ordinateur, » reprit Luc, « j'ai appliqué la loi de Bernoulli. Vous savez ce que c'est, monsieur Smith ?»
Celui-ci secoua la tête.
« Si, il le sait, »
dit Kalisha, le regard pétillant.
« Exact, » confirma Nicky. « Il n'aime pas ça. La loi de machin-chose n'est pas son ami. »
La loi de Bernoulli est une méthode précise pour exprimer les probabilités, dit Luc. Elle repose sur l'idée que certains événements empiriques ont deux résultats possibles, comme tirés à pile ou face. Ces résultats peuvent être marqués P pour positif et N pour négatif. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails, mais à l'arrivée, vous vous retrouvez avec une variable dite booléenne qui exprime clairement la différence entre les événements aléatoires et non aléatoires.
« Ouais, tu as raison. Nous ennuie pas avec des trucs évidents, » ironisa Nick. « Va droit au but. »
Jouer à pile ou face, c'est aléatoire. Les résultats des matchs de foot semblent aléatoires si vous prenez un petit échantillon. Mais si vous choisissez un échantillon plus large, il devient évident que ce n'est pas le cas, car d'autres facteurs entrent en ligne de compte. On est alors dans les probabilités, et si la probabilité A est supérieure à la probabilité B, alors dans la plupart des cas, c'est A qui se produira. Vous le savez si vous avez déjà misé sur un événement sportif, hein ?
Oui, dit Tim. Le journal indique les cotes et l'écart de points probables.
Luc hocha la tête. C'est très simple en fait, et quand vous appliquez la loi de Bernoulli aux statistiques de précognition, une tendance intéressante émerge. Annie, quand votre tante a eu cette idée de génie de garder ses fils à la maison, l'incendie s'est produit combien de temps après ?
Le soir même.
Cette réponse sembla réjouir Luc.
Voilà donc un exemple parfait. La loi de Bernoulli montre que les flashs précognitifs, les visions, si vous préférez utiliser ce terme, sont généralement plus précis quand l'événement prédit se déroule quelques heures plus tard. Lorsque le temps entre la prédiction et l'événement prédit s'allonge, les probabilités pour que celle-ci se réalise diminuent. Dès que l'on parle en semaine, elle chute, et le P se transforme en N.
Il reporta son attention sur l'homme blond.
« Vous le savez, et les personnes avec qui vous travaillez le savent aussi, depuis des années, des dizaines d'années à vrai dire. Forcément, n'importe quel matheux muni d'un ordinateur peut appliquer la loi de Bernoulli. C'était peut-être pas très évident quand vous avez lancé ce programme à la fin des années 40 et au début des années 50, mais dès les années 80, vous ne pouviez pas ne pas le savoir.
dès les années 60 déjà.
Tu es très intelligent, Luke, rétorqua Smith. Mais tu n'es encore qu'un enfant, et les enfants pratiquent la pensée magique. Ils déforment la réalité jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce qu'ils désirent. Crois-tu que nous n'avons pas effectué des tests pour prouver les capacités précognitives de notre groupe ?
Son zèzement s'accentuait.
Nous effectuons de nouveaux tests chaque fois que nous ajoutons un nouveau précog. Nous leur demandons de prédire une succession d'événements aléatoires, comme le retard de certains avions, des nouvelles comme la mort de Tom Petty, le vote en faveur du Brexit, ou les véhicules qui franchissent telle ou telle intersection. Nous enregistrons tous les succès depuis presque 3/4 siècle.
3/4 siècle.
Oui, mais vos tests se concentrent toujours sur des événements proches, fit remarquer Kadisha. Ne prenez pas la peine de nier. Ça clignote dans votre esprit comme une enseigne électrique. D'ailleurs, c'est logique. À quoi sert un test si vous ne pouvez pas évaluer les résultats avant 5 ou 10 ans? Elle prit la main de Nikki. Luke s'approcha d'eux et prit la main de Kadisha. Tim entendit le bourdonnement. Faible, mais présent. Berkowitz était exactement là où nos précogs avaient affirmé qu'il se trouverait le jour où il est mort, dit Smith. Et il l'avait prédit 1 an avant.
Ok, admit Luke. Mais vous cibliez des gens, Paul Westin par exemple, en vous basant sur des prédictions à 10, 20 et même 25 ans. Vous savez qu'elles ne sont pas fiables. Vous savez que tout peut arriver et orienter les individus dans une direction différente. Il suffit d'une chose aussi banale qu'un coup de téléphone manqué. Pourtant, vous continuez.
Admettons que tu aies raison sur ce point, dit Smith. Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir? Pense à toutes ces prédictions qui se sont avérées. Et pense aux conséquences possibles, si nous n'avions rien fait.
Aux conséquences possibles.
Annie avait un train de retard, peut-être même 2. Comment vous pouvez être sûr que les prédictions vont se réaliser si vous tuez les personnes qu'elles concernent? Je comprends pas.
Lui non plus, dit Luke. Mais ils ne supportent pas de se dire qu'ils ont tué toutes ces personnes sans raison. Même chose pour ses collègues.
On a été obligé de détruire le village pour le sauver, intervint Tim. Quelqu'un n'a pas dit ça un jour, en parlant du Vietnam?
Si vous suggérez que nos précogs nous ont menés par le bout du nez, qu'ils ont inventé des...
Pouvez-vous être sûr que ce n'est pas le cas?
Le coupa Luke.
Peut-être de manière inconsciente, mais ils mènent la belle vie là-bas, non? Ils sont peinards. Rien à voir avec notre vie à l'Institut. Et peut-être que leurs prédictions sont authentiques au moment où ils les font, mais elles ne tiennent pas compte des facteurs aléatoires.
« Ni de Dieu !» déclara subitement Kadisha.
Smith, qui se prenait pour Dieu depuis Dieu sait combien de temps, ne put réprimer un sourire sardonique.
Luke reprit. « Vous comprenez ce que je veux dire.
Je le sais. Il y a trop de variables. »
Smith ne répondit pas immédiatement. Il contemplait le paysage. Finalement, il dit « Oui, nous avons des mathématiciens. Et oui, la loi de Bernoulli a parfois été évoquée dans des rapports et des discussions, depuis plusieurs années. Alors admettons encore une fois que tu aies raison.
Admettons que notre réseau d'instituts n'ait pas sauvé 500 fois le monde d'une destruction atomique,
mais 50 fois seulement.
Ou même 5. Est-ce que ça n'en vaudrait pas la peine ? »
Tout bas, Tim répondit « Non. » Smith le regarda comme s'il était fou.
Non ? Vous répondez non ?
Des individus sains d'esprit ne sacrifient pas des enfants sur l'autel des probabilités. Ce n'est pas de la science. C'est de la superstition. Et je pense que vous devriez vous en aller maintenant.
Nous reconstruirons, déclara Smith, si nous en avons le temps.
Étant donné que le monde dévale la pente à toute allure, comme une guimbarde de gamin sans personne pour la contrôler. Je suis venu également pour vous dire ça et vous mettre en garde. Pas d'interview, pas d'article dans la presse, pas de menaces sur Facebook ou Twitter. De toute façon, ces histoires feraient rigoler les gens, mais elles seraient prises très au sérieux par mes amis et moi. Alors si vous voulez assurer votre survie,
taisez-vous.
Le bourdonnement enflait, et quand Smith sortit son paquet d'Indian Spirit de sa poche de chemise, sa main tremblait. L'homme qui était descendu de la Chevrolet Passepartout avait la situation en main. Il était sûr de lui, habitué à donner des ordres et à les voir exécuter illico. L'homme qui se tenait devant eux maintenant, avec son zèzement prononcé et les auréoles de sueur qui s'élargissaient sous ses aisselles, n'était plus le même.
« Je crois que vous feriez bien de partir, fiston, »
lui conseilla Annie d'une voix douce, voire chaleureuse.
Smith laissa échapper le paquet de cigarettes. Quand il se pencha pour le ramasser, le paquet glissa sur le sol, bien qu'il n'y ait pas de vent.
« Fumer, c'est mauvais pour la santé, » dit Luc.
« Vous n'avez pas besoin qu'un précoque vous dise ce qui va se passer si vous n'arrêtez pas. » Les essuie-glaces de la Malibu se dressèrent. Les phares s'allumèrent.
« À votre place, je filerai, » dit Tim. « Pendant que vous le pouvez encore. »
« Vous êtes furieux à cause de tout ce qui s'est passé, et je le comprends. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur de la colère de ces enfants. Ils ont connu le pire. »
Smith se dirigea vers sa voiture et ouvrit la portière. Il pointa le doigt sur Luke.
« Tu crois ce que tu veux croire, » dit-il. « Comme nous tous. Tu le découvriras par toi-même le moment venu, pour ton malheur. »
Il démarra. Les roues arrière de la voiture soulevèrent un nuage de poussière qui flotta vers Tim et les autres, avant de changer de trajectoire, comme chassé par un souffle de vent qu'aucun d'eux ne sentait. Luke sourit en songeant que George n'aurait pas fait mieux.
« Peut-être que j'aurais dû nous débarrasser de lui, » dit Annie nonchalamment. « Il y a assez de place pour un corps au fond du jardin. »
Luke soupira et secoua la tête.
« Il y en a d'autres. Il n'est que le porte-parole. »«
Et on deviendrait comme eux, » ajouta Kalisha.
« N'empêche, » dit Nicky.
Il n'en dit pas plus, mais Tim n'avait pas besoin de lire dans les pensées pour deviner la suite. Ça aurait été chouette.